Bonjour à tous, il est 11h ici à Paris, 13h à Istanbul, 16h30 à Mandalay.
Karine Bellicha.
À la une, le séisme en Birmanie a fait plus de 1000 morts, un bilan encore très provisoire face à l'ampleur de la catastrophe. Le compte à rebours est déclenché pour retrouver des survivants dans les décombres. L'aide internationale commence à affluer. On fait le point dès le début de ce journal. Elon Musk rattrapé par les consommateurs, le bras droit de Donald Trump subit une fronde des utilisateurs de ses voitures électriques. Une journée mondiale de mobilisation contre Tesla est organisée aujourd'hui. Enfin, mission délicate pour Manuel Valls en déplacement en Nouvelle-Calédonie pour 4 jours. Le ministre français des Outre-mer veut faire avancer les négociations sur l'avenir institutionnel de l'archipel. En Birmanie, le bilan du séisme a été revu à la hausse. Plus de 1000 morts, 2000 blessés, mais il reste très provisoire. Le système de communication est largement endommagé. La collecte des informations sur le terrain, bien difficile. Partout, des scènes de désolation, notamment dans la région de Mandalay, la deuxième ville du pays. 90 personnes seraient piégées dans les décombres d'un immeuble. Carole Izou, bonjour.
Bonjour.
On ne compte pas les maisons et les immeubles effondrés, les sites religieux à terre et les routes impraticables.
Oui, comme vous le disiez, le bilan est pour l'instant largement sous-évalué. C'est en tout cas l'avis d'un groupe d'experts géologues américains. Il pourrait en fait atteindre plusieurs dizaines de milliers de morts, puisque le séisme est très étendu. De nombreuses zones affectées ne disposent d'aucun moyen de communication. Alors c'était déjà le cas avant le tremblement de terre, une bonne partie des populations rurales n'ayant pas accès à l'électricité ni à Internet. En provenance des centres urbains, des images de destruction importante de maisons et de temples circulent sur les réseaux sociaux, notamment à Mandalay, deuxième ville du pays, et important centre religieux où les équipes de la Croix-Rouge s'activent pour retrouver 90 personnes sous les décombres de l'un des plus hauts immeubles de la ville. Et à Sagaing, place forte de la résistance de la jeunesse à la junte militaire, à Bangkok, les équipes de secours sont parvenues à sortir une vingtaine de personnes d'un immeuble effondré. Des signes de vie d'une quinzaine d'individus ont été détectés sous les décombres et la course contre la montre a commencé pour les sauver. Il s'agit en majorité des ouvriers birmans qui construisaient l'immeuble.
Carole Izou du service international d'RFI. Une foule compacte s'est donné rendez-vous dans un parc sur la rive asiatique d'Istanbul depuis une heure maintenant, avec des drapeaux turcs à la main. L'opposition compte ses troupes aujourd'hui, malgré la répression extrême et des centaines d'arrestations. Le CHP, le parti d'Ikrem İmamoğlu, a appelé à un grand rassemblement pour poursuivre, selon les organisateurs, la marche vers le pouvoir. C'est l'interpellation du maire de la ville qui a mis le feu aux poudres il y a 10 jours, déclenchant un mouvement de contestation inédit depuis plus de 10 ans en Turquie, mobilisant des dizaines de milliers de manifestants. Principal opposant du président Recep Tayyip Erdogan, Ikrem İmamoğlu s'apprêtait à annoncer sa candidature pour la présidentielle de 2028. Copenhague ne digère pas la visite de J.D. Vance au Groenland et le fait savoir. Le ministre des Affaires étrangères dit ce matin ne pas apprécier le ton employé par les Américains. En visite dans le territoire autonome danois depuis la base militaire de Pituffik, le vice-président américain a réitéré hier ses attaques contre le Danemark, accusé de ne pas assez œuvrer pour la sécurité de l'Arctique. Une remise en question de l'autorité de Copenhague, alors que Donald Trump a réitéré son intention de s'emparer du Groenland. Les autorités locales sont aussi vent debout face à l'entrisme américain. Le rouleau compresseur de l'administration américaine continue donc d'avancer. Elon Musk, à la tête du fameux département de l'efficacité gouvernementale, le DOJ, poursuit les licenciements massifs de fonctionnaires et multiplie les déclarations violentes. Mais depuis quelques semaines, le bras droit de Donald Trump est rattrapé par les consommateurs de sa marque Tesla. Une journée mondiale d'action est prévue aujourd'hui partout dans le monde, devant les concessionnaires et les stations de recharge du constructeur de véhicules électriques. C'est la poursuite d'un mouvement baptisé Tesla Takedown, démantelons Tesla, qui prend de l'ampleur depuis début février. Claire Fage.
Démarré il y a près de 2 mois aux États-Unis, le mouvement Tesla Takedown, Abat Tesla, prévoit ce samedi des regroupements dans au moins 500 lieux à travers le monde. Tous les concessionnaires des États-Unis sont visés. En France, une manifestation est prévue devant la boutique parisienne du constructeur américain, une autre à Beauvais, dans le nord du pays, près d'un super chargeur Tesla. Elon Musk est en train de détruire notre démocratie. Il utilise la fortune qu'il a bâtie chez Tesla pour le faire. Nous nous mobilisons contre Tesla pour stopper le coup d'État illégal de Musk, peut-on lire dans l'appel. En cause, les propos et les gestes d'Elon Musk, dénoncés comme d'extrême droite, et le démantèlement des agences gouvernementales américaines menées par le milliardaire. Vendez vos Tesla, débarrassez-vous de vos actions, rejoignez les rassemblements, demande le mouvement. Tesla Takedown se veut pacifique et cherche à se démarquer des actes de vandalisme qui se sont néanmoins multipliés, le plus spectaculaire étant l'incendie de véhicules à coups de cocktails Molotov et d'armes à feu dans un atelier de Las Vegas cette semaine. L'action Tesla a perdu 40% de sa valeur depuis l'investiture de Donald Trump.
La situation à Haïti est très mauvaise et elle continue de s'aggraver. Voilà le constat de Volker Turk, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, lors de la présentation de son rapport annuel. Les gangs continuent de gagner du terrain dans la capitale Port-au-Prince et un policier kényan de la mission multinationale de sécurité est mort mardi dernier. Il est urgent d'empêcher les armes d'entrer dans le pays, prévient Volker Turk.
La situation des droits de l'homme en Haïti a atteint un nouveau point de crise. Au cours des 2 dernières années, elle a dramatiquement empiré. Notre rapport montre comment le trafic d'armes et de munitions alimente un cercle destructeur de violence qui conduit à de sévères violations des droits humains. Il existe une issue à cette catastrophe. Cela serait possible avec une volonté politique et un engagement continu des autorités et de la communauté internationale. La première chose indispensable à faire est de stopper le flux d'armes qui pénètre illégalement dans le pays. Si nous n'agissons pas de façon durable sur ce point, alors que c'est ce qui perpétue le chaos, toute amélioration en termes de sécurité ou de stabilité ne sera que temporaire.
Volker Turk, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. En Ukraine, aucune trêve sur le front. Une nouvelle attaque russe de drones a tué au moins 4 personnes. Elle a fait une 20aine de blessés également dans la ville de Dnipro, dans le centre-est du pays. Des frappes qui ont endommagé des immeubles et provoqué un incendie. Hier, la Russie et l'Ukraine se sont de nouveau accusées d'avoir ciblé des sites énergétiques du camp adverse. Un fragile accord annoncé cette semaine par Washington est censé interdire les frappes sur ces infrastructures. Manuel Valls est arrivé en Nouvelle-Calédonie pour une visite de 4 jours, deuxième déplacement du ministre français des Outre-mer, dans l'archipel au large de l'Australie depuis fin février. Il veut faire avancer les négociations à Nouméa sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, déjà amorcé lors de sa première visite, mais la mission s'annonce délicate. Stéphane Duguay.
Tout est fragile, reconnaît lui-même Manuel Valls. Le ministre des Outre-mer, interrogé à l'Assemblée cette semaine, veut, dit-il, entamer de véritables négociations politiques. Jusqu'ici, le numéro 3 du gouvernement avait déjà réussi à mettre indépendantistes et non-indépendantistes autour d'une même table pour discuter. Les échanges avaient abouti à un document de synthèse sur lequel les négociations des 4 prochains jours vont s'appuyer. Même si des progrès ont été salués des 2 côtés, l'atterrissage sur un accord est encore loin. Les indépendantistes du FLNKS ont publié un communiqué ce vendredi. Pour avancer, ils demandent l'établissement d'un cadre méthodologique clair, notamment la présence à la table des négociations de Christian Théin, le chef de l'organisation. Il est emprisonné dans l'Hexagone pour son rôle présumé dans les émeutes de 2024. Le FLNKS réclame aussi la supervision des négociations par l'ONU, des conditions difficilement entendables pour les non-indépendantistes. Au-delà d'avoir rouvert le dialogue pour Manuel Valls, l'enjeu maintenant c'est de permettre aux 2 parties de trouver un compromis sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.
Face à la bronca, l'Académie des Oscars s'est excusée publiquement. Des centaines de professionnels d'Hollywood avaient dénoncé son manque de soutien envers Hamdan Balal, après avoir reçu l'Oscar du meilleur documentaire début mars pour Northerland, un long métrage sur la colonisation sur Cisjordanie. Le réalisateur palestinien avait été attaqué par des colons en début de semaine, puis arrêté par les autorités israéliennes avant d'être libéré mardi. L'Académie des Oscars est d'abord restée silencieuse. Voilà tout de suite, écho d'ici, écho d'ailleurs.